Thérèse Raquin, chapitre 17. Laurent quitta le passage, l'esprit tendu, la chair inquiète. L'haleine chaude, le consentement de Thérèse, venait de remettre en lui les âpretés d'autrefois. Il prit les quais et marcha, son chapeau à la main, pour recevoir au visage tout l'air du ciel. Lorsqu'il fut arrivé rue Saint-Victor, à la porte de son hôtel, il eut peur de monter, d'être seul. Un effroi d'enfant inexplicable, imprévu, lui fit craindre de trouver un homme caché dans sa mansarde. Jamais il n'avait été sujet à de pareilles poltronneries. Il n'essaya même pas de raisonner le frisson étrange qui le prenait. Il entra chez un marchand de vin et y resta pendant une heure jusqu'à minuit, immobile et muet, à une table, buvant machinalement de grands verres de vin. Il songeait à Thérèse. Il s'irritait contre la jeune femme qui n'avait pas voulu le recevoir le soir même dans sa chambre, et il pensait qu'il n'aurait pas eu peur avec elle. On ferma la boutique, on le mit à la porte. Il rentra pour demander des allumettes. Le bureau de l'hôtel se trouvait au premier étage. Laurent avait une longue allée à suivre et quelques marches à monter avant de pouvoir prendre sa bougie. Cette allée, ce bout d'escalier d'un noir terrible l'épouvantait. D'ordinaire, il traversait gaillardement ces ténèbres. Ce soir-là, il n'osait sonner. Il se disait qu'il y avait peut-être, dans un certain renfoncement formé par l'entrée de la cave, des assassins qui lui sauteraient brusquement à la gorge quand il passerait. Enfin, il sonna. Il alluma une allumette et se décida à s'engager dans l'allée. L'allumette s'éteignit. Il resta immobile, haletant, n'osant s'enfuir, frottant les allumettes sur le mur humide avec une anxiété qui faisait trembler sa main. Il lui semblait entendre des voix, des bruits de pas devant lui. Les allumettes se brisaient entre ses doigts. Il réussit en allumer une. Le soufre se mit à bouillir, à enflammer le bois avec une lenteur qui redoubla les angoisses de Laurent. Dans la clarté pâle et bleuâtre du soufre, dans les lueurs vacillantes qui couraient, il crut distinguer des formes monstrueuses. Puis l'allumette pétilla. La lumière devint blanche et claire. Laurent, soulagé, s'avança avec précaution, en ayant soin de ne pas manquer de lumière. Lorsqu'il lui fallut passer devant la cave, il se serra contre le mur opposé. Il y avait là une masse d'ombre qui l'effrayait. Il gravit ensuite vivement les quelques marches qui le séparaient du bureau de l'hôtel et se crut sauvé lorsqu'il tint sa bougie. Il monta les autres étages plus doucement en élevant la bougie, en éclairant tous les coins devant lesquels il devait passer. Les grandes ombres bizarres qui vont et viennent, lorsqu'on se trouve dans un escalier avec une lumière, le remplissaient d'un vague malaise en se dressant et en s'effaçant brusquement devant lui. Quand il fut en haut, il ouvrit sa porte et s'enferma rapidement. Son premier soin fut de regarder sous son lit, de faire une visite minutieuse dans la chambre, pour voir si personne ne s'y trouvait caché. Il ferma la fenêtre du toit en pensant que quelqu'un pourrait bien descendre par là. Quand il eut pris cette disposition, il se sentit plus calme. Il se déshabilla en s'étonnant de sa poltronnerie. Il finit par sourire et se traiter d'enfant. Il n'avait jamais été peureux et ne pouvait s'expliquer cette crise subite de terreur. Il se coucha. Lorsqu'il fut dans la tiédeur des draps, il songea de nouveau à Thérèse que ses frayeurs lui avaient fait oublier. Les yeux fermés obstinément, cherchant le sommeil, il sentait malgré lui ses pensées travailler, s'imposer, se lier les unes aux autres, lui présenter toujours les avantages qu'il aurait à se marier au plus vite. Par moments, il se retournait, il se disait « Ne pensons plus, dormons, il faut que je me lève à 8 heures demain pour aller à mon bureau ». Il faisait effort pour se laisser glisser au sommeil. Mais les idées revenaient une à une. Le travail sourd de ses raisonnements recommençait. Il se retrouvait bientôt dans une sorte de rêverie aiguë qui étalait au fond de son cerveau les nécessités de son mariage, les arguments que ses désirs et sa prudence donnaient tour à tour pour et contre la possession de Thérèse. Alors, voyant qu'il ne pouvait dormir, que l'insomnie tenait sa chair irritée, il se mit sur le dos. Il ouvrit les yeux tout grands, il laissa son cerveau s'emplir du souvenir de la jeune femme. L'équilibre était rompu, la fièvre chaude de jadis le secouait de nouveau. Il eut l'idée de se lever et de retourner au passage du Pont-Neuf. Il se ferait ouvrir la grille, il irait frapper à la petite porte de l'escalier et Thérèse le recevrait. À cette pensée, le sang montait à son cou. Sa rêverie avait une lucidité étonnante. Il se voyait dans les rues, marchant vite le long des maisons, et il se disait « Je prends ce boulevard, je traverse ce carrefour pour être plus tôt arrivé. » Puis la grille du passage grinçait, il suivait l'étroite galerie sombre et déserte, en se félicitant de pouvoir monter chez Thérèse sans être vu de la marchande de bijoux faux. Puis il s'imaginait être dans l'allée, dans le petit escalier par où il avait passé si souvent. Là, il éprouvait les joies cuisantes de jadis. Il se rappelait les terreurs délicieuses, les voluptés poignantes de l'adultère. Ses souvenirs devenaient des réalités qui impressionnaient tous ses sens. Il sentait l'odeur fade du couloir. Il touchait les murs gluants. Il voyait l'ombre sale qui traînait. Et il montait chaque marche, haletant, prêtant l'oreille, contenant déjà ses désirs dans cette approche craintive de la femme désirée. Enfin, il grattait à la porte s'ouvrait, Thérèse était là qui l'attendait, en jupon, toute blanche. Ses pensées se déroulaient devant lui en spectacle réel. Les yeux fixés sur l'ombre, il voyait. Lorsqu'au bout de sa course dans les rues, après être entré dans le passage et avoir gravi le petit escalier, il crut apercevoir Thérèse, ardente et pâle. Il sauta vivement de son lit en murmurant « Il faut que j'y aille. Elle m'attend. » Le brusque mouvement qu'il venait de faire chassa l'hallucination. Il sentit le froid du carreau. Il eut peur. Il resta un instant immobile, les pieds nus, écoutant. Il lui semblait entendre du bruit sur le carreau. S'il allait chez Thérèse, il lui faudrait passer de nouveau devant la porte de la cave en bas. Cette pensée lui fit courir un grand frisson froid dans le dos. L'épouvante le reprit, une épouvante bête et écrasante. Il regarda avec défiance dans sa chambre. Il y vit traîner des lambeaux blanchâtres de clarté. Alors doucement, avec des précautions pleines d'une hâte anxieuse, il remonta sur son lit et là, se pelotonna, se cacha, comme pour se dérober à une arme, à un couteau qui l'aurait menacé. Le sang s'était porté violemment à son cou et son cou le brûlait. Il y porta la main. Il sentit sous ses doigts la cicatrice de la morsure de Camille. Il avait presque oublié cette morsure. Il fut terrifié en la retrouvant sur sa peau. Il crut qu'elle lui mangeait la chair. Il avait vivement retiré la main pour ne plus la sentir et il la sentait toujours, dévorante, trouant son cou. Alors il voulut la gratter délicatement du bout de l'ongle. La terrible cuisson redoubla. Pour ne pas s'arracher sa peau, il serra les deux mains entre ses genoux repliés. Roidi, irrité, il resta là, le cou rongé, les dents claquant de peur. Maintenant, ses idées s'attachaient à Camille, avec une fixité effrayante. Jusque-là, le noyer n'avait pas troublé les nuits de Laurent. Et voilà que la pensée de Thérèse amenait le spectre de son mari. Le meurtrier n'osait plus ouvrir les yeux. Il craignait d'apercevoir sa victime dans un coin de la chambre. À un moment, il lui sembla que sa couche était étrangement secouée. Il s'imagina que Camille se trouvait cachée sous le lit et que c'était lui qui le remuait ainsi pour le faire tomber et le mordre. Hagard, les cheveux dressés sur la tête, il se cramponna à son matelas, croyant que les secousses devenaient de plus en plus violentes. Puis il s'aperçut que le lit ne remuait pas. Il y eut une réaction en lui. Il se mit sur son séant, alluma sa bougie en se traitant d'imbécile. Pour apaiser sa fièvre, il avala un grand verre d'eau. « J'ai eu tort de boire chez ce marchand de vin, » pensa-t-il. « Je ne sais ce que j'ai cette nuit. C'est bête. Je serai éreinté aujourd'hui à mon bureau. J'aurais dû dormir tout de suite en me mettant au lit et ne pas penser à un tas de choses. C'est cela qui m'a donné l'insomnie. Dormons. » Il souffla de nouveau la lumière. Il enfonça la tête dans l'oreiller, un peu rafraîchi, mais décidé à ne plus penser, à ne plus avoir peur. La fatigue commençait à détendre ses nerfs. Il ne s'endormit pas de son sommeil ordinaire, lourd et accablé. Il glissa lentement à une somnolence vague. Il était comme simplement engourdi, comme plongé dans un abrutissement doux et voluptueux. Il sentait son corps en sommeillant. Son intelligence restait éveillée dans sa chair morte. Il avait chassé les pensées qui venaient, il s'était défendu contre la veille. Puis, quand il fut assoupi, quand les forces lui manquèrent et que la volonté lui échappa, les pensées revinrent doucement, une à une, reprenant possession de son être défaillant. Ses rêveries recommencèrent. Il refit le chemin qui le séparait de Thérèse. Il descendit, passa devant la cave en courant et se trouva dehors. Il suivit toutes les rues qu'il avait déjà suivies auparavant lorsqu'il rêvait les yeux ouverts. Il entra dans le passage du Pont-Neuf, monta le petit escalier et gratta à la porte. Mais au lieu de Thérèse, au lieu de la jeune femme en jupon, la gorge nue, ce fut Camille qui lui ouvrit. Camille, telle qu'il avait vue à la morgue, verdâtre, atrocement défigurée. Le cadavre lui tendait les bras avec un rire ignoble, en montrant un bout de langue noirâtre dans la blancheur des dents. Laurent poussa un cri et se réveilla en sursaut. Il était trempé d'une sueur glacée. Il ramena la couverture sur ses yeux, en s'injuriant, en se mettant en colère contre lui-même. Il voulut se rendormir. Il se rendormit comme précédemment, avec lenteur. Le même accablement le prit, et dès que la volonté lui eut de nouveau échappé dans la longueur du demi-sommeil, il se remit en marche, il retourna où le conduisait son idée fixe, il courut voir Thérèse et ce fut encore le noyé qui lui ouvrit la porte. Terrifié, le misérable se mit sur son séant. Il aurait voulu pour tout au monde chasser ce rêve implacable. Il souhaitait un sommeil de plomb qui écrasa ses pensées. Tandis qu'il se tenait éveillé, il avait assez d'énergie pour chasser le fantôme de sa victime. Mais dès qu'il n'était plus maître de son esprit le conduisait à l'épouvante en le conduisant à la volupté. Il tenta encore le sommeil. Alors ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il allait vers Thérèse. Toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de 10 reprises, il refit le chemin, il partit la chair brûlante, suivit le même itinéraire, eut les mêmes sensations, accomplit les mêmes actes, avec une exactitude minutieuse, et à plus de 10 reprises, il vit le noyé s'offrir à son embrassement lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. Ce même dénouement sinistre qui le réveillait chaque fois, haletant et éperdu, ne décourageait pas son désir. Quelques minutes après, dès qu'il se rendormait, son désir oubliait le cadavre ignoble qui l'attendait et courait chercher de nouveau le corps chaud et souple d'une femme. Pendant 1 heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars. Dans ce mauvais rêve sans cesse répété et sans cesse imprévu qui, à chaque sursaut, le brisait d'une épouvante plus aiguë. Une des secousses, la dernière, fut si violente, si douloureuse qu'il se décida à se lever, à ne pas lutter davantage. Le jour venait. Une lueur grise et morne entrait par la fenêtre du toit qui coupait dans le ciel un carré blanchâtre couleur de cendre. Laurent s'habilla lentement avec une irritation sourde. Il était exaspéré de n'avoir pas dormi, exaspéré de s'être laissé prendre par une peur qu'il traitait maintenant d'enfantillage. Tout en mettant son pantalon, il s'étirait, il se frottait les membres, il se passait les mains sur son visage battu et brouillé par une nuit de fièvre. Et il répétait: « Je n'aurais pas dû penser à tout ça, j'aurais dormi, je serais frais et dispo à 7 heures. Ah, si Thérèse avait bien voulu hier soir, si Thérèse avait couché avec moi !» Cette idée que Thérèse l'aurait empêché d'avoir peur le tranquillisa un peu. Au fond, il redoutait de passer d'autres nuits semblables à celles qu'il venait d'endurer. Il se jeta de l'eau à la face, puis se donna un coup de peigne. Ce bout de toilette rafraîchit sa tête et dissipa ses dernières terreurs. Il raisonnait librement. Il ne sentait plus qu'une grande fatigue dans tous ses membres. « Je ne suis pourtant pas poltron, se disait-il, en achevant de se vêtir. Je me moque pas mal de Camille. C'est absurde de croire que ce pauvre diable est sous mon lit. Maintenant, je vais peut-être croire cela toutes les nuits. Décidément, il faut que je me marie au plus tôt. Quand Thérèse me tiendra dans ses bras, je ne penserai guère à Camille. Elle m'embrassera sur le cou. Je ne sentirai plus l'atroce cuisson que j'ai éprouvée. » Voyons donc cette morsure. Il s'approcha de son miroir, tendit le cou et regarda. La cicatrice était d'un rose pâle. Laurent, en distinguant la marque des dents de sa victime, éprouva une certaine émotion. Le sang lui monta à la tête et il s'aperçut alors d'un étrange phénomène. La cicatrice fut empourprée par le flot qui montait. Elle devint vive et sanglante. Elle se détacha toute rouge sur le cou gras et blanc. En même temps, Laurent ressentit des picotements aigus, comme si l'on eût enfoncé des aiguilles dans la plaie. Il se hâta de relever le col de sa chemise. « Bah, reprit-il, Thérèse guérira cela. Quelques baisers suffiront. Je suis bête de songer à ces choses. » Il mit son chapeau et descendit. Il avait besoin de prendre l'air, besoin de marcher. En passant devant la porte de la cave, il sourit. Il s'assura cependant de la solidité du crochet qui fermait cette porte. Dehors, il marcha à pas lents, dans l'air frais du matin, sur les trottoirs déserts. Il était environ 5 heures. Laurent passa une journée atroce. Il dut lutter contre le sommeil accablant qui le saisit dans l'après-midi à son bureau. Sa tête, lourde et endolorie, se penchait malgré lui et il la relevait brusquement dès qu'il entendait le pas d'un de ses chefs. Cette lutte, ses secousses achevèrent de briser ses membres en lui causant des anxiétés intolérables. Le soir, malgré sa lassitude, il voulut aller voir Thérèse. Il la trouva fiévreuse, accablée, lasse comme lui. « Notre pauvre Thérèse a passé une mauvaise nuit, » lui dit Madame Raquin lorsqu'il se fut assis. « Il paraît qu'elle a eu des cauchemars, une insomnie terrible. À plusieurs reprises, je l'ai entendue crier. Ce matin, elle était toute malade. » Pendant que sa tante parlait, Thérèse regardait fixement Laurent. Sans doute, ils devinèrent leur commune terreur, car un même frisson nerveux courut sur leur visage. Ils restèrent en face l'un de l'autre jusqu'à 10 heures, parlant de banalité, se comprenant, se conjurant tous deux du regard de hâter le moment où ils pourraient s'unir contre le noyé.